31 ans, s'étant en chiffres ronds, l'âge moyen à la maternité en France l'année dernière. Cet âge était de 29 ans au début des années 2000, il recule donc. Et un autre fait notable, c'est la hausse du taux de fécondité chez les femmes de plus de 40 ans. Le nombre d'enfants pour 100 femmes de plus de 40 ans a augmenté de 50%. En 20 ans, cela reste rare, moins d'un enfant pour 100 femmes de plus de 40 ans l'année dernière selon l'INSEE, mais de moins en moins rare dans les années 80. Le taux de fécondité des 40-42 ans a augmenté, puis 43 ans et plus, et maintenant 46 ans et plus. Alors comment expliquer un tel phénomène? Avoir un enfant après 40, voire 45 ans, quel risque, quel plaisir, quel changement de société cela révèle-t-il? Voilà pour notre sujet jusqu'à 13h45. Il va de soi que j'attends vos témoignages et questions. Il y en a déjà énormément au standard 01 45 24 7000. Appli France Inter, rubrique Réagir également. Deux invités pour dialoguer avec vous. La docteure Sylvie Eppelboin, gynécologue obstétricienne à l'hôpital Bichat Claude Bernard à Paris. Bonjour madame.
Bonjour.
Et Marc Bessin, sociologue, directeur de recherche au CNRS, auteur notamment de Parents après 40 ans, coécrit avec Hervé Levillain aux éditions Autrement. Bonjour monsieur Bessin. Et tout de suite, allez, un premier témoignage, il y en a tellement. Sylvie peut-être d'abord. Bonjour Sylvie.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons, vous nous appelez de La Ciotat.
Oui, tout à fait. Eh bien, j'étais enceinte à 42 ans, donc j'ai accouché à 42 ans. Cette grossesse, évidemment, était absolument formidable. C'était un premier enfant, et ça a été le seul. Et c'était mon témoignage. J'avais une toute petite question quand j'étais enceinte, puisque c'était un petit peu tardif, évidemment. C'était sur quand mon enfant va grandir, est-ce qu'il va penser qu'il a une mère un peu âgée par rapport à ses copains, à l'école, etc. Et bien, je rassure toutes les peut-être futures mamans, rien de tel ne s'est produit et il n'y a aucune différence. Les enfants, en fait, il n'y a pas d'âge de parents pour les enfants, il me semble.
Et alors, quel âge du coup a votre enfant? C'est fille, garçon?
C'est un garçon qui a eu 22 ans hier.
22 ans hier, et donc des relations, je dirais, absolument identiques à ce que peuvent avoir des mamans qui ont eu leurs enfants plus jeunes.
Oui, tout à fait. Bon, j'ai des copines qui ont 20 ans de moins que moi.
Oui.
Et ça se passe très bien, et j'ai jamais eu cette impression, oui, d'être dépassée ou quoi que ce soit.
Au contraire, peut-être que ça vous a aidé à tenir jeune.
Ah ben oui, ça c'est certain, parce qu'on a des préoccupations, je suis nouvellement à la retraite, là, pour mes 64 ans, et donc j'ai eu des, on va dire, des préoccupations quand des amis à moi ayant mon âge étaient grand-mère, j'étais maman, mais il n'y a aucun décalage, je trouve, sociétal, justement, par rapport à tout ça.
Merci beaucoup pour ce premier témoignage, Sylvie. Marc Bessin, j'entends deux choses, la peur d'être une vieille maman lorsqu'on est enceinte, et puis finalement, le fait que ça maintient dans un certain dynamisme au fil des années.
Oui, ce sont des choses que l'on retrouve dans les enquêtes qu'on a pu faire, par exemple, avec Hervé Levillain. Bon, c'est d'autant plus intéressant que c'est le témoignage, c'est une naissance il y a 20 ans, voilà. Donc c'est des représentations d'il y a 20 ans. Et depuis, ça a encore évolué, me semble-t-il, sur, disons, la variété des âges, même si, il faut le rappeler, ce sont des faits rares, oui. Mais en même temps, au niveau des représentations, il semble en effet que ça ait un petit peu évolué quand même. On n'est plus dans la stigmatisation des vieux parents, même si...
Était à une époque dans la stigmatisation, carrément?
Oui, il y avait une forme, c'est-à-dire il y a eu une évolution à partir des années 80, ce qui a fait qu'il y a eu une augmentation. Il y a des éléments démographiques, les remises en union, moins de familles nombreuses, etc. Ça fait que ça a évolué, mais la stigmatisation, elle était aussi liée au fait qu'avant, c'était des choses qui étaient subies, soit des familles nombreuses, soit le fait de des grossesses non maîtrisées, alors que maintenant, ce qu'on valorise, c'est le choix.
C'est un choix.
Et c'est ça. Sur le deuxième aspect
maintenir jeune, si j'ose dire.
Se maintenir jeune, etc. Ouais. Ça aussi, c'est évidemment, on voit l'âge peut entraîner de la fatigue, de l'usure, mais qui a été parent sait que c'est pas toujours simple et c'est pas tout, ça peut être usant. Mais il y a aussi cet aspect du défi, ouais. De toujours être et une sorte de challenge que beaucoup de parents, notamment de mères, affronte avec beaucoup d'énergie souvent.
Allez, deuxième témoignage que je vais vous soumettre à vous, docteur Eppelboin, celui de Valérie. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Vous avez eu votre fille il y a 41 ans, je crois.
Tout à fait, voilà. Alors moi j'ai un parcours un peu différent de madame. Je sors d'un parcours de PMA qui a duré plus d'une dizaine d'années, avec des hauts et des bas, des moments de doute et puis un lâcher prise. Plus envie d'être dans ce parcours, donc on a décidé avec mon ami à l'époque, qui n'était pas encore mon mari, de se marier. Et puis, quelques mois après notre mariage, j'ai découvert que j'étais enceinte, tout naturellement. Donc, c'est un changement de vie. On vivait un peu comme des étudiants, on sortait, on voyageait. Nos amis avaient des enfants, effectivement, on était toujours un peu en décalage. Et puis, l'arrivée de cette petite fille a changé notre vie. C'est un bouleversement tellement énorme, c'est des émotions, c'est d'abord la peur de pas y arriver, et puis après, on est pris dans le jeu de notre rôle, et c'est vrai que c'est un changement qui fait que de toutes les façons, quel que soit l'âge qu'on ait, on s'adapte, et puis surtout, il n'y a pas d'âge pour être parent, c'est un travail de tous les jours, je pense.
Docteur Eppelboin, merci beaucoup Valérie pour ce témoignage. Docteur Eppelboin, on entend là le témoignage d'une personne qui a eu un parcours long de PMA, qui a même tenté procédure d'adoption, et puis finalement, ça arrive par voie naturelle, si j'ose dire, passé 40 ans. Vous avez beaucoup de patientes qui ont ce profil-là?
Alors, beaucoup, non, parce que si c'était la règle, ça serait trop simple, et il n'y aurait plus besoin de... On gommerait toutes les années d'attente et on commencerait par là, et oui, toutes les années de médicalisation. C'est néanmoins un témoignage qu'on a relativement souvent. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour mettre en lien aussi avec la relation précédente, on peut être dans les années 2020 totalement des parents épanouis, une maman épanouie à 42 ans. La grossesse en elle-même ne présente plus les complications majeures d'auparavant, qui étaient le diabète, l'hypertension plus fréquente, la prématurité pour le bébé,
et pardon,
etc.
Pourquoi
parce que il y a parce qu'il y a un suivi qui s'est amélioré et qui permet d'éviter. Et par contre, le problème qui reste, c'est d'arriver à être enceinte. Et malheureusement, dans un monde où l'espérance de vie des femmes dépasse 85 ans, on sait qu'à partir de 35 ans, les chances de grossesse sont nettement moindres. Et après 40 ans, que ce soit en naturel ou que ce soit après assistance médicale à la procréation, les chances diminuent. Donc, elles sont très rares. Et au bout d'un moment, si les trompes ne sont pas bouchées, s'il n'y a pas une infertilité masculine majeure, eh bien, les chances de la grossesse un peu miraculeuse, naturelle, qui va arriver avec le temps, sont presque identiques à celles en assistance médicale à procréation, que ce soit insémination, fécondation in vitro. Donc, cette histoire arrive de temps en temps et c'est un joli pied de nez à la médecine.
Et ce que je retiens aussi, c'est qu'il y a donc toujours un suivi particulier pour les femmes de plus de 40 ans, suivi médical, et que ce suivi a progressé au fil des années.
Le suivi obstétrical, de façon générale, a progressé. Donc, c'est simplement le suivi habituel qui doit être parfaitement respecté. Et chez les femmes qui ont des antécédents de diabète, d'hypertension, on va un petit peu plus, quand une grossesse est programmée, faire un bilan vasculaire et entourer, en tout cas, notamment la fin de grossesse, d'un suivi qui ne va pas non plus enlever tout le charme de la grossesse, mais qui va permettre d'éviter les complications, notamment de fin de grossesse.
Et suivi qu'on prolonge un peu plus longtemps après la grossesse que pour les autres femmes ?
Tout dépend des cas. C'est difficile de donner une généralisation. Oui. S'il y a eu des pathologies, il y a eu un suivi de ces pathologies. S'il n'y en a pas eu, il n'y a pas de lieu de le faire.
Christine au téléphone. Bonjour Christine.
Bonjour.
Vous avez eu un enfant à 45 ans. Vous êtes enseignante et vous êtes plutôt du côté du regret.
Non.
Alors allez-y, expliquez-moi.
Alors, en fait, donc à 40 ans, j'ai connu mon compagnon, et à 45 ans, j'étais en santé d'avoir un enfant. Ouais. On avait le même, avec François, on avait le même désir, quoi. Donc, on avait un grand désir d'enfant, et en fait, peut-être qu'on était un peu inconscient, mais on était heureux d'avoir un enfant et de l'accueillir. Le problème, si vous voulez, c'est mon gynéco était extraordinaire. Et il savait que c'était une grossesse précieuse parce que j'avais fait une première fausse couche. Ouais. Et trois ou quatre mois après, ben j'ai réussi, on a réussi à l'avoir naturellement. Et du coup, on était enchantés tous les deux. Mais mon gynécologue nous a envoyé, parce que j'avais du diabète gestationnel, il nous a envoyé voir un spécialiste de l'accouchement qui nous a fait une échographie en 3D et qui nous a dit « Oh là là, mais il est fou, ce gynécologue, de vous autoriser à avoir un enfant à cet âge-là, vous vous rendez pas compte, cet enfant a les oreilles beaucoup plus basses que ce qu'il devrait les avoir, enfin, c'est pas normal, et il vous a pas fait en plus le... »
Donc il vous a inquiété ?
Ah oui, 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 complètement.
Et aujourd'hui, comment ça se passe ?
Et aujourd'hui, ben écoutez, on a failli avoir un enfant trisomique, mais en fait, au cinquième mois, on m'a fait la myosynthèse en urgence, et heureusement, elle allait bien. Et aujourd'hui, elle a 14 ans, et elle est adorable, enfin vraiment, on est très enchantés de la voir. Mais ce à quoi on n'avait pas pensé, si vous voulez, c'est que tous les grands-parents sont décédés, c'est que il y a eu beaucoup de... Voilà, de... J'ai eu une maladie génétique qui était associée après l'accouchement, on a failli me perdre à l'accouchement.
Donc la charge est lourde, c'est ça que vous voulez nous dire.
Et voilà, et maintenant, tout à l'heure, là, j'y ai demandé, j'ai dit, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Elle me dit, le problème, c'est que vous êtes un peu vieux.
Et voilà. Marc Bessin, Jasmine nous dit, j'ai une petite fille à 42 ans, on parle de l'infertilité féminine, assez peu de l'infertilité masculine. C'est vrai qu'on dit beaucoup, avoir un enfant après 40 ans, on parle beaucoup des femmes. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils vous disent ?
Alors, dans ce phénomène des parents qui ont des enfants tard, il y a une grosse asymétrie entre les femmes et les hommes. Ouais. Et toute la pression, une pression sur le fait d'exister en tant que femme pour avoir un enfant, ce qui est moins le cas pour les hommes. La pression du fait de l'âge, évidemment, toute la fameuse horloge biologique. Oui. Les hommes n'ont pas à gérer cela. Donc toutes les pressions autour de cette question de l'âge pour avoir des enfants, elles sont concentrées sur les femmes. Ce ne sont pas des normes de parentalité, ce sont des normes de maternité. Donc, évidemment, les hommes, c'est pas anodin d'avoir un enfant plus tard pour les hommes, mais c'est souvent de l'ordre du confort, l'enfant qui vient, y compris dans des formes de négociations conjugales où au début ils n'avaient pas forcément envie, mais en même temps ils arrivent en ayant souvent leur carrière après, les enjeux de carrière après eux, etc. Donc d'une certaine façon, toute la pression elle est plutôt sur les femmes de ce point de vue-là. Même si, évidemment, pour autant, les hommes qui vivent cela, le vivent très bien, voire même sont dans des pratiques qui sont plus engagés que
dans la paternité.
Dans la paternité que beaucoup de pères, disons, qui sont plus au cœur de leurs enjeux de profession et qui, dès lors, reproduisent les inégalités d'investissement domestique.
Docteur Eppelbois, vous confirmez, vu de votre cabinet de gynécologue obstétricien ?
Il y a... Cette pression sur les femmes est une pression évidente. Jusqu'à présent, ce sont les femmes qui sont enceintes. Donc, quelle que soit l'infertilité au départ, que ce soit celle de la femme ou celle de l'homme, à partir du moment où l'entourage sait que le couple va avoir recours à l'assistance médicale à la procréation, même si c'est une infertilité masculine très importante, tous les regards se tournent vers la femme. C'est elle qui est enceinte ou qui a encore ses règles d'un mois à l'autre. Mmh. Et donc, c'est elle qui se sent encore et maintenant coupable, bien sûr,
jusqu'à,
la plupart du temps.
Jusqu'à quel âge recule-t-on on voit là dans les données de l'INSEE des taux de fécondité qui augmentent au-delà même de 46 ans. On commence à voir des femmes, je ne sais pas, de 50 ans qui, via l'assistance médicale à la procréation, quitte à avoir des dons et d'ovocytes et de sperme, ont des enfants passés 50 ans.
Alors, il faut bien que les auditeurs comprennent la différence entre le taux de fécondité, c'est ce que vous avez rapporté fort justement, et la fertilité, c'est-à-dire la possibilité pour une femme à être enceinte. Et donc, on estime que, par exemple, en insémination de spermatozoïdes après 40 ans, il y a à peu près, à chaque cycle, environ 5, 6, 7% de chances pour une femme d'être enceinte et de donner naissance à un enfant, parce que c'est quand même la seule chose qui les intéresse. Oui. Et au-delà du 43e anniversaire, c'est moins de 1%. Donc, ce qui est très important, c'est de comprendre que il n'y a pas seulement les complications de la grossesse, mais il y a des anomalies chromosomiques au fur et à mesure de l'âge sur l'ovule, ce qui fait que sur le pourcentage d'ovules qui vont donner des embryons capables d'évoluer jusqu'au stade enfant, ça menuise énormément avec l'âge. Donc, les naissances à 50 ans, c'est rarissime. Et nos techniques d'assistance médicale à la procréation, jusqu'à une date très, très récente, étaient limitées au 43e anniversaire. La loi de bioéthique, récemment, autorise les inséminations et les transferts d'embryons jusqu'au 45e anniversaire. Donc ça va être légal. Oui. Mais il faut bien que les femmes comprennent que les professionnels sont extrêmement réservés, puisqu'entre le 43e et le 45e anniversaire, les chances de succès sont infimes. Donc il y aura droit à, mais il n'y aura pas possibilité de la médecine. Oui. Donc non, pour résumer ma réponse à votre question, non, les grossesses ne vont pas augmenter, hormis celles qui font appel à un don d'ovules de femmes jeunes. Oui. Et cela, ça sera possible encore et toujours hors frontières, puisque nous avons un âge limite en France, tel qu'il a été encore redéterminé par la loi.
Merci docteur Eppelboin et merci à vous Marc Bessin. Je rappelle la référence de votre livre avec Hervé Levillain. Parents après 40 ans, c'est aux éditions Autrement.